Moi, c'est André Dumbouzima et au Kata oriental. J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à tous en compagnie des Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Depuis 2007, l'Assemblée Générale des Nations Unies a consacré le 2 octobre de chaque année la journée de la non-violence. Une journée qui a été créée pour sensibiliser la population sur la culture de la non-violence et de la paix. La célébration met l'accent sur plusieurs axes, dont notamment le développement de la compréhension, la tolérance et la solidarité. En RDC, il arrive parfois que les gens se livrent à des actes d'intolérance d'une ou de l'autre manière. Que proposez-vous pour cultiver la tolérance et la solidarité en RDC? Nous en parlons avec Dismas Kitenge, président de l'ONG Groupe Lotus et secrétaire de la Fédération internationale de droits de l'homme FIDH. Nadine Foula, Paul Badanyama sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meji sous la supervision de Nicole Ngaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
C'est pour rendre hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, que cette journée a été créée le 2 octobre de chaque année pour sensibiliser sur la culture de la non-violence et de la paix. Une réflexion basée sur 8 axes, dont notamment la promotion, le développement économique et social, la promotion et le respect de tous les droits de l'homme, l'égalité entre les hommes et les femmes, la participation démocratique, le développement de la compréhension, la tolérance et la solidarité, mais aussi le renforcement d'une culture de la paix par l'éducation. Et nous en parlons ensemble avec vous pour dégager les pistes des solutions, vos propositions pour cultiver la non-violence, cultiver la tolérance en RDC. Qu'est-ce qui doit être fait? Quelle est la responsabilité des uns et des autres? Parce qu'au niveau des Nations Unies, dans la célébration, il y a la société civile, il y a les partis politiques, les pouvoirs publics, mais aussi les leaders d'opinion. Comment chacun peut contribuer au développement de la culture de la paix, de la tolérance, de la non-violence. Vos points de vue sont les bienvenus dans cette émission. Mais nous avons aussi ce point de vue de Franck qui nous a écrit de Vienne, qui dit ceci: la conception de la non-violence doit encore être profondément enseignée dans les milieux des vies des Congolais. Il y a des dispositions juridiques et légales en cette matière. Il y a des textes dûment publiés, lesquels ne sont malheureusement pas correctement suivis et appliqués. Comme beaucoup savent qu'il y a des dispositions juridiques au niveau de la forme sans être appliquées, il y en a qui en profitent. C'est pourquoi le thème de la non-violence est encore loin pour être suivi. D'où cette réelle difficulté que ce thème ne soit totalement compris par la plupart des citoyens congolais à base d'un débat sur les ondes d'une radio. Il doit au contraire être intériorisé dans sa profondeur, dans les us et réflexes des citoyens congolais. Il faut intégrer dans le programme des cours de civisme et de la nouvelle citoyenneté, dans les cours des sociologie, anthropologie et aussi psychologie, dans toutes ces branches morales visant une vie paisible entre citoyens de ce monde. Il faut l'enseigner dans tous les milieux professionnels et organiser des campagnes de sensibilisation sur l'ensemble des chaînes médiatiques, mettant parfois dans les territoires congolais. Sinon, la non-violence, la tolérance, la solidarité resteront des simples slogans. Merci pour ce point de vue de notre ami Franck. Je crois bien, notre invité est avec nous en ligne de Kisangani, Dismas Kitenge. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous discutons ensemble avec les auditeurs, nous dégageons les pistes des solutions pour arriver à cultiver la tolérance, la non-violence dans notre société, partant bien sûr de la célébration de cette journée arrêtée par les Nations Unies depuis 2007. Mais est-ce qu'on peut dire que le débat sur la tolérance, la non-violence dans notre société a sa place aujourd'hui, Dismas Kitenge?
Oui, merci. Le débat sur la non-violence a effectivement sa place aujourd'hui dans notre société. Au regard d'abord des conflits armés qui se passent dans notre pays depuis 1996-1997 jusqu'à nos jours à l'Est et qui embrasent, dont les conséquences sont ressenties sur l'ensemble du pays. Ça, c'est un fait réel, et ça, c'est la violence politique, la violence qui prend aussi plusieurs formes. Mais pour parler concrètement de la violence au niveau de notre État et au niveau international, je dirais qu'il faut voir le phénomène sous les angles suivants. Il y a d'abord l'angle politique, c'est-à-dire les États qui doivent cesser de recourir à la violence dans le règlement des conflits qui les opposent. Et ça, c'est l'interdiction de recours à la violence qui est faite dans la Charte des Nations Unies. La violence n'est peut-être utilisée qu'à titre exceptionnel. Donc voilà, mais d'ordinaire... Allô?
Oui, on vous écoute, oui.
Allô?
Oui, vous êtes sur les antennes, on vous écoute, monsieur Dismas. Est-ce que vous le suivez? Vous pouvez continuer. On a des petits soucis de ligne avec Kisangani, la réalisation. On va voir comment on peut améliorer la ligne avec Dismas Kitenge qu'on venait de perdre tout à l'heure là, alors qu'il est en train d'expliquer plusieurs axes en ce qui concerne la violence. D'abord, la compréhension de la violence en disant que le débat, il est important dans notre société aujourd'hui. Nous dégageons ensemble avec vous les pistes et les solutions. Que faut-il pour cultiver la tolérance, cultiver la solidarité, cultiver la non-violence dans notre pays? Parce que selon les Nations Unies, cela est un socle pour arriver au développement. Vos points de vue, propositions sont les bienvenus. En attendant qu'on puisse rejoindre notre invité à Kisangani, Séraphin, vous êtes à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, Tonton Pierrot. Ensuite, à tous les autres de la radio 4.
Et vous avez suivi la problématique de notre échange aujourd'hui en marge de cette journée, la sensibilisation sur la culture de la tolérance et de la non-violence. Comment on peut y arriver en RDC? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci une fois de plus de l'opportunité que m'accordez encore. D'abord, je voudrais dire une culture de la non-violence et de la paix favorise le respect de la vie et de la dignité de chaque être humain et sans préjugés ni discrimination d'aucune sorte. Et personnellement, je crois que l'éducation a un rôle à jouer dans l'édification d'une culture de la non-violence et de la paix, et particulièrement en enseignant aux enfants de la pratique de la non-violence et de la paix. Et ce qui contribuera beaucoup plus à la réalisation de buts et des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Je voudrais juste proposer pour qu'on puisse discuter avec cette culture de non-violence. Moi, je crois que la première des choses, c'est l'introduction officielle d'abord de la formation à la non-violence et à la paix à tous les niveaux du système éducatif congolais. Parce que vous remarquerez même dans des classes, dans des écoles, il n'y a pas vraiment cette culture, il n'y a pas vraiment cet enseignement de lutte contre la non-violence. Raison pour laquelle l'introduction officielle de cette formation à la non-violence doit être beaucoup plus un impératif, qu'on puisse capitaliser ça. Et deuxième chose, c'est l'intégration de cet enseignement dans la formation initiale et continue dans les enseignants. Parce que, en fait, même les enseignants qui enseignent aujourd'hui dans des écoles primaires, que ce soit même dans des universités, n'ont pas réellement cette notion de lutter contre la non-violence. Mm-hmm. Donc, l'essentiel aussi, il faudra qu'il y ait cette intégration dans cet enseignement de formation initiale et continue dans les enseignants. Il y a aussi l'accès de tous les adultes travaillant sur le site scolaire à une formation à la gestion des conflits. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez un grand conflit entre d'abord les ethnies et tribus dans différents coins du pays, parce que nous suivons votre radio, la radio Capi, qui est derrière la chaîne qui est beaucoup plus écoutée dans la République démocratique du Congo. Il y a par-ci par-là des conflits ethniques et des conflits tribales. Et raison pour laquelle tout le monde, il faudrait faire que l'État congolais puisse chercher tout le moyen afin qu'on puisse former le Congolais avec dans la culture là, de lutter contre les conflits, surtout formés dans la lutte contre la non-violence.
Merci beaucoup, Séraphin. Vous pensez qu'il faut développer cela en trois axes. D'abord, il faut la formation à la non-violence doit être intégrée au sein, au niveau de notre enseignement. À partir de l'école primaire déjà, de l'enseignement fondamental, les enfants doivent être formés et enseignés au développement de la culture de la non-violence. Il faudrait aussi intégrer cela dans la formation, que ce soit même au niveau de l'université, mais pourquoi pas aussi permettre aux adultes d'être sensibilisés et formés sur la prévention et la résolution des conflits. Comme ça peut contribuer à développer la culture de la non-violence dans le pays. Merci beaucoup. Nous allons retourner à notre invité, Dismas Kitenge, qui est en train d'introduire déjà en expliquant, en parlant d'abord sur le plan politique au niveau des États. Et c'est là qu'on l'avait perdu. Dismas, si vous êtes avec nous, vous pouvez continuer votre intervention.
Bien, je disais d'abord au niveau des États, sur le plan politique, il y a l'interdiction de recourir à la violence. Il y a aussi sur le plan juridique, nous avons les traités internationaux qui interdisent aussi les recours à la violence. Nous avons également en notre pays la constitution et les lois, les différentes lois qui interdisent également le recours à la violence et qui sanctionnent ça. Nous avons par exemple notre constitution dans un des articles qui parle de l'interdiction des gens qui peuvent recourir à la violence pour prendre le pouvoir. Nous avons aussi l'interdiction de la violence même pour régler les problèmes, disons, individuels. Ça peut être le meurtre, on peut recourir à ça, les conséquences, les coups et blessures qui sont également sanctionnés en infraction. Nous avons donc sur le plan social donc l'effort à faire aujourd'hui, comme disait tout à l'heure l'auditeur, qu'il faut éduquer vraiment les gens depuis la famille jusque dans les écoles à lutter contre les violences. Et enfin, je pense qu'il y a aussi un autre secteur, c'est le secteur que j'appelle culturel et économique. Sur le plan culturel, il faut vraiment intérioriser la culture de la non-violence depuis la famille, apprendre aux enfants à ne pas dire des mots violents contre leurs semblables ou les parents contre les enfants. Par exemple, il y a des parents qui injurient leurs enfants et les enfants apprennent ça dès la famille, mm-hmm. à utiliser des mots violents, des injures ou à se battre. Voilà. Et sur le plan économique, je dirais qu'il faut faire aussi un effort pour qu'il n'y ait pas l'exploitation de l'homme par l'homme, qui est interdite par nos lois et les lois internationales, puisque ce sont des formes aussi de violences économiques. Donc les violences prennent plusieurs formes, les formes politiques, les formes sociales, les formes économiques et les formes culturelles. Et aussi la considération, par exemple, de l'homme envers la femme. Puisque dans notre culture, on voit généralement que les hommes sont violents. Il y en a qui pensent que la femme est une chose qu'on peut battre, qu'on peut violenter. Et ça, cette culture doit être apprise depuis la famille. À l'école, aujourd'hui, il faut renforcer à travers les lois que nous avons qui luttent contre les violences sexuelles et qui promeuvent la parité, c'est-à-dire l'égalité des sexes. Mmh. Donc voilà, tout ça, et aussi quand je disais la culture politique, c'est-à-dire il faut bannir tout ce qui peut permettre à ce que le coup d'État, qu'il y ait des coups d'État qui permettent aux gens de passer au pouvoir, qu'il y ait des conflits armés. Et sur le plan politique, par exemple, pendant les élections, nous avons l'habitude de voir les militants des partis politiques qui s'affrontent, qui utilisent les armes, qui utilisent d'autres moyens violents. Il faut aussi une éducation à ce niveau-là. Mmh. Et finalement, au niveau de la justice, il faut avoir une justice indépendante, efficace, qui réprime toutes les formes de violence, y compris les violences politiques, les violences économiques, les violences sociales, les violences culturelles. Comme ça, la société sera vraiment une société de paix. Mmh. Donc, c'est un effort à faire sur plusieurs plans que je viens de mentionner tout à l'heure.
Merci, Dismas Kitenge, on vous garde en ligne. On comprend que arriver à cultiver, à garder cette culture, à développer cette culture de la non-violence, de la tolérance au sein de la société, c'est une question transversale. Ça passe presque au niveau toute la société est concernée. Mais on va écouter encore les auditeurs. On reviendra à vous pour voir à chaque niveau comment les responsabilités peuvent être partagées. Que ce soit au niveau de la société civile, au niveau de leaders d'opinion, au niveau du pouvoir des partis politiques, mais aussi au niveau du pouvoir public, comment les actions peuvent être menées. On pourra voir cela avec vous le temps qu'on écoute encore les auditeurs. Nous avons Maître Machaka qui nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur l'ingénieur, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capine.
On vous écoute monsieur, vous avez suivi l'introduction avec notre invité, mais aussi notre ami Séraphin Douvira qui a pensé qu'il faut intérioriser la non-violence à partir de l'école, de la formation. Il faut plusieurs campagnes de sensibilisation, mais aussi la formation des adultes hein, sur la prévention et la résolution des conflits. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on puisse développer un RDC la culture de la non-violence et la tolérance?
Merci beaucoup, monsieur Gier. Notre invité, il a tout dit, en tout cas, monsieur Gier. Ce qui reste là-bas, c'est la mise en application de ce que l'invité vient de dire. Vous savez, aujourd'hui, avant d'abord de lutter contre la violence, il faut d'abord faire savoir à la population congolaise quels sont les actes constitutifs de la violence du droit de quelqu'un, puisque chaque individu, chaque citoyen doit d'abord savoir les droits de l'autre. et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter les droits de l'autre. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire afin que vous ne puissiez pas être considéré comme quelqu'un qui viole les droits de l'autre. La non-violence ici, ça bat ses records aujourd'hui, monsieur Jules. Je crois que c'est par absence d'une justice équitable. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? C'est au lieu que la justice puisse prendre la politique en otage, c'est la politique qui prend maintenant la justice en otage. Tant que la justice n'a pas encore pris la politique en otage, monsieur Jules, nous pouvons commencer à parler des sujets et des sujets. Pour leur mise en application, ça causera toujours des problèmes. Comme notre invité l'a souligné très bien, cette culture doit commencer à partir de la famille qui est la base d'une nation. Puisque l'invité l'a déjà dit, un enfant qui est son enfant, son parent, le donne le conseil chaque jour, il ne faut pas injurier, il ne faut pas voler l'histoire d'autrui, il ne faut pas faire ceci, cela. C'est difficile que cet enfant-là puisse être sujet de non-violence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe encore, messager? C'est surtout du côté de nos agents de l'ordre, messager. Ils n'ont pas cette culture, ils ne savent pas respecter les droits de l'autre. Bien sûr, quelqu'un peut être coupable, mais il a ses droits aussi que vous, l'agent de l'ordre, vous devez respecter. Qu'est-ce qui se passe souvent? Je vais épingler les points, surtout de ce qu'on appelle les bureaux de... Et surtout les PCR. Dernièrement, ici, chez nous, à Lubumbashi, il y a un agent de PCR qui a causé la mort au moins à 3 personnes. Il a menacé un chauffeur au lieu de l'amener au bureau. Puisque tout ça, ça fait partir du non-respect de la non-violence. Il a commencé à menacer le chauffeur. Le chauffeur, en fuyant, il a tamponné 4 piétons comme ça. Les histoires pareilles, il faut que les mesures de sécurité doivent être renforcées pour la mise en application et pour le respect de ces principes-là de la non-violence, monsieur Pierre.
Merci beaucoup, maître Machakia. C'est monsieur Pierrot, comme vous l'avez dit. Vous avez insisté sur la connaissance des droits de l'autre. C'est ce qui est important. Si quelqu'un connaît les droits de l'autre, il ne peut pas procéder par la violence pour résoudre un problème. Il peut tolérer l'autre. Il y a aussi l'absence de la justice, comme vous pensez, qui est à la base de la provocation, qui fait aujourd'hui qu'il a culture de la non-violence ne peut pas être ancrée dans la société, mais il faut penser à cela à partir de la famille, de l'école, de milieu professionnel, mais aussi, pourquoi pas, enseigner les agents de l'ordre sur la culture de la non-violence. Merci beaucoup, maître. Nous allons à Kananga, au Kasaï occidental. Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à monsieur l'invité.
Vous avez suivi le compatriote qui ont pensé qu'il faut intérioriser la question de la non-violence à partir de la famille, des écoles, dans le milieu professionnel. Quelle est votre proposition?
Oui, merci Pierrot. Je pense qu'ils ont raison de dire ce qu'ils ont dit là, mais néanmoins, ils doivent savoir que la violence, lorsque nous lisons la plupart des textes juridiques, la violence a été déjà prévue. Soit elle peut prendre une infraction de coups et blessures, soit une infraction de duel, soit une infraction de voie de fait. Et donc, chez nous ici, au Kasaï occidental, il ne se pose pas de problème sur la violence individuelle, parce qu'elle est toujours réprimée par le cours des tribunaux. Mais l'inquiétude, c'est par rapport à la violence collective. Cette violence-là est due très souvent à des frustrations, à des positions prises par les uns et les autres. Je ne vais pas les énumérer, mais néanmoins, pour donner vraiment des solutions, il était impérieux de commencer par citer ce que je venais de dire. Donc, ces cas-là d'intolérance, d'injustice, c'est pour cela, pour la solution, je pense, Pierrot, il serait mieux de passer d'abord par la sensibilisation. La sensibilisation concerne et la société civile et les partis politiques très souvent, parce que les problèmes se posent au sein des partis politiques. C'est vrai que par moments, ce ne sont pas leurs militants qui sont des provocateurs, mais ce sont des forces de l'ordre qui jettent des petites boutades de ça et là avec des cris provocateurs, et puis le militant ne sait pas vraiment se contenir. Il tombe aussi par rapport à leur bien. Je pense qu'il faut commencer par sensibiliser vraiment le militant des partis politiques, et le gouvernement devait aussi le faire par rapport aux forces publiques, former quand même une classe, une catégorie de nos forces de l'ordre, une force de l'ordre vraiment tolérante, pour savoir qu'on peut même vous injurier en face, on peut vous provoquer par les partis politiques, les militants, mais vous simplement ces manifestations. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi vulgariser tous les textes de loi, parce qu'il y a la Constitution, il y a le code pénal, il y a le code de procédure pénale. Tous ces textes-là parlent toujours de non-violence. Je pense, troisièmement, Pierrot, il faut aussi analyser aussi la situation politique, hein, parce que lorsque nous voyons que ces violences-là sont dues par rapport à des prises de position de nos différents gouvernements, hein, en privilégiant les uns au détriment des autres, et le gouvernement devait aussi tirer attention par rapport à ces prises de position, parce que toute prise de position ne réjouit toujours pas la population. Mmh. Hein, la population peut aussi réagir par rapport à une position prise par tel ou tel autre gouvernement. Et moi, je pense que la sensibilisation reste vraiment le mot clé et la vulgarisation de tous les textes de loi. Voilà ce que je pouvais dire, Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous pensez qu'il faut passer par la sensibilisation et la vulgarisation des textes juridiques qui traitent de la violence. Et puis, vous avez pensé aussi qu'il y a ce problème de la violence collective, hein, qui souvent provient de frustration des uns et des autres. Et là, que ce soit au niveau de la société civile, des partis politiques, du pouvoir public, chacun a un rôle à jouer, que ce soit dans l'encadrement de militants pour ce qui est des partis politiques, dans la formation des forces de l'ordre, dans le maintien de l'ordre, mais aussi il y a le problème de gouvernants qui doivent considérer l'intérêt général dans la prise des positions pour éviter qu'il y ait des déçus et des frustrés qui vont s'exprimer par la violence. Merci beaucoup, Maître Adrien. Nous allons à Kisangani, Pichu. Vous nous appelez de Kisangani. Bonjour, Pichu.
Oui, bonjour. Moi, je vais juste intervenir à ce qui concerne la violence. Moi, je trouve que la violence est due à l'insatisfaction des besoins sociaux. Parce que chaque personne a ce genre de besoins. Même s'il faut recourir même à la pyramide des besoins, selon Maslow a tenté de hiérarchiser les pyramides des besoins. Je vous remarquerai que la plupart des faits qui sont violents, pour ceux qui n'ont pas réussi à satisfaire leurs besoins. Et vous remarquerez qu'il y a plus les pauvres, ceux qui n'ont pas réussi à leur vie, qui sont devenus plus violents. Or, le gouvernement devrait plutôt créer une politique de permettre à ces gens de satisfaire leurs besoins. Prenons l'exemple des policiers. Les salaires des policiers devraient permettre de répondre aux besoins sociaux. Et vous remarquerez qu'ils ont créé maintenant les modalités et les systèmes là de l'assassinat, des violences et toutes ces choses. C'est dans le même cas pour ce domaine. Vous remarquerez que dans des milieux où on touche plus ce domaine, ce sont ceux qui sont en train de créer des violences. Et ceux qui travaillent n'ont même pas le temps de passer par des violences. Et c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Pichu. Vous pensez que la plupart des cas, la violence naît de besoins insatisfaits, de la pauvreté, du chômage. Les gens, quand ils n'ont pas du travail, quand ils ne sont pas satisfaits, vous avez donné l'exemple des policiers, les gens qui ne sont pas, qui ne parviennent pas à pouvoir nouer comme il faut les deux bouts du moins, avec toutes ces insatisfactions et ces frustrations, ils ont tendance à répondre par la violence. Alors, il faut résoudre le problème des besoins sociaux des gens. Ils pourront aussi cultiver en eux la non-violence. Merci beaucoup, Pichu. Nous restons dans la même ville, à Kisangani, avec Élie. Bonjour, Élie.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Les uns et les autres sont revenus sur la responsabilité au niveau de la Allô? Société pour chacun. Oui, Élie, on vous écoute. Nous disons que les uns et les autres sont revenus sur la responsabilité de chacun dans la société, dans le développement de la culture de la non-violence. Quelle est votre proposition?
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est que je suis d'accord avec l'industrie du fonds hospitalier qui a fait un peu le tour d'horizon du sujet du jour. Je suis d'accord avec lui, il faut tous, il y a un problème au niveau de sensibilisation. Il y a des gens qui ne sont pas informés de tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que, généralement, la classe de la population congolaise, elle est constituée des gens qui n'ont pas assez de niveau. Et il faut se rattraper à, il faut aussi tenir compte de leur niveau pour qu'ils comprennent au moins, qu'ils sachent au moins ce qui se passe, qu'ils aient au moins l'information de tout ce qui est en rapport avec la violence, de tout qui a rapport avec la violation, tout ça là. Mais ce sont des choses qui échappent à la compréhension de tout le monde. Si jamais les autorités pouvaient aussi se donner les luttes de pouvoir, élargir et prétendre une forte utilisation pour amener tout le monde à avoir la même idée ou avoir une information pour que certains actes de violence soient aussi évités. Ça, c'est aussi une bonne chose. Parce qu'une seule partie de la population semble être informée, celle des intellectuels, et même qu'ils soient informés, même ceux qui sont informés, ils ne donnent pas la peine de pouvoir illustrer dans le dans la bonne marche dans ces processus qui est presque inachevé.
Voilà, merci beaucoup. Élie, on vous a bien suivi. Malgré il y a des petites difficultés des lignes avec Kisangani, vous avez insisté sur la sensibilisation parce que le problème résulte plus de la sous-information. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens, la majorité ne sont pas, beaucoup de gens ne sont pas instruits, ils n'ont pas accès à l'information et même quelques intellectuels qui ont accès à l'information sur le la violence et puis les méfaits de la violence, ils ne partagent pas avec les autres. Vous avez pensé qu'il faut beaucoup plus insister, beaucoup plus sensibilisé. On va voir maintenant sur le plan pratique comment on peut procéder à développer cette culture-là avec notre invité après avoir écouté Théodore qui est en Bujimaï au Kassai Oriental. Bonjour Théodore.
Bonjour mon ami.
Et vous avez suivi les uns et les autres. Comment arriver à développer la culture de la non-violence dans notre pays?
Inculquer la culture de la non-violence est une démarche qui doit être recommandée à tout être humain. Ici, j'essaie un peu de parler sur l'aspect politique et l'aspect des entreprises, par exemple, et aussi pour les droits de l'enfant. En ce qui concerne le parti politique, par exemple, vous savez qu'il y a des associations, il y a un groupe de gens, soit un peuple qui peut revendiquer quelque chose, et en cela, la Constitution recommande d'informer l'autorité, par exemple, sur la marche pacifique. Cette marche pacifique qui doit se faire dans la non-violence. Et quand vous demandez dans ce sens-là, vous devez écrire, informer à l'autorité provinciale. Et maintenant, c'est la police de couvrir et de protéger les manifestants. Par exemple, des 4e rue Limité jusque, par exemple, au Palais du Peuple. On doit les protéger contre peut-être les infiltrés qui peuvent venir déranger pour ne pas faire la violence. Et quand à cela, il y a aussi les entreprises. Les entreprises, vous voyez, il n'y a pas longtemps, le médecin, ils ont appliqué, ils étaient en grève et ils ont fait d'une manière équilibrée. Il y a les hôpitaux publics qui étaient fermés, mais on a visé d'autres hôpitaux qui étaient ouverts pour recevoir des malades, pour ne pas vraiment appliquer la violence d'une manière, parce qu'il y a la violence qui se pratique d'une façon morale. Les gens peuvent être tués à force de ne pas recevoir les soins médicaux. Et nous devons aussi ajouter l'obligation des parents et de l'État de protéger les enfants contre tout acte de violence et de maltraitance, y compris même l'accusation de sorcellerie. Il y a les églises, les prophètes qui accusent les enfants de sorcellerie. Mm-hmm. Les enfants sont tapés, sont malmenés, maltraités. Tout cela, l'État doit suivre cela. Et l'État aussi, à travers la justice, auprès des parents, il doit pousser les enfants et aussi les adultes à appliquer la non-violence contre, par exemple, la pédophilie, les abus sexuels, accusation de sorcellerie et consorts. Et si les pouvoirs publics ont l'obligation, par exemple, aujourd'hui, d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer devant la justice les auteurs de ces crimes, je sais que cela sera d'une bonne manière. C'est parce que je pose la question à notre invité pour terminer. Que prévoit l'État ou bien la justice en matière de sanctions réservées aux utilisateurs de la violence dans toutes ses formes?
Merci beaucoup, Théodore. Vous avez proposé des pistes de solutions partant des partis politiques, des entreprises, que ce soit les revendications au niveau des mouvements associatifs, des mouvements syndicaux. Vous avez parlé des parents, leurs responsabilités et la société avec les églises, l'État qui doit promouvoir aussi l'attitude de la non-violence contre les enfants. Et vous posez la question à notre invité, mais qu'est-ce que la loi prévoit pour ceux qui pratiquent la violence dans toutes ses formes? Vous gardez la ligne Polycarpe, vous êtes dans la même ville. l'embougema. Il est temps que Gismas Kitenge puisse réagir parce qu'on a eu beaucoup d'interventions de nos auditeurs. Il pourra réagir, mais nous dire aussi concrètement comment on peut procéder sur le terrain. Je rappelle que Parole aux auditeurs se penche sur la célébration le 2 octobre prochain de la journée internationale de la non-violence décrétée par les Nations Unies en 2007 pour sensibiliser sur la culture de la paix et la non-violence. Et nous en parlons avec vous. Qu'est-ce qui doit être fait en RDC? Vos propositions pour cultiver la non-violence ainsi que la tolérance. 081-890-5315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Dismas Kitenge, vous êtes avec nous. Vous avez suivi nos auditeurs qui sont revenus sur plusieurs propositions partant de l'éducation, de la sensibilisation, de la vulgarisation des textes hein, dans les différents, selon plusieurs interlocuteurs. Mais il y a aussi ce qui doit être fait concrètement au niveau, par exemple, de la société civile où vous militez, où vous travaillez. Comment leurs responsabilités dans la sensibilisation, dans la vulgarisation peuvent être réparties. Mais il y a aussi une question qui vous a été posée par notre auditeur de Mbujimaï pour savoir ce que la loi dit pour ceux qui recourent à la violence pour résoudre le problème dans toutes ses formes. Voilà autant de préoccupations, c'est que vous pouvez compléter par rapport à ce qui a été dit par les auditeurs.
Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par répondre à la question. Que prévoit la loi pour les personnes qui utilisent, qui recourent aux violences? Notre code pénal congolais est assez éloquent, donc il est... infraction, le fait que les violences, les instituts en infraction des violences physiques, par exemple.
Ah voilà, on a des petits soucis avec Dismas Kitenge. Si peut-être il peut s'y empêcher de se déplacer, parce que là on sent que l'endroit où il se trouve en ce moment a des problèmes de liaison. Si peut-être il pourra voir comment se déplacer un tout petit peu, ça peut résoudre le problème de contact direct avec Kisangani. Nous avons Maître Polycarpe qui est en bougement et qui va garder la ligne. On va vous accorder la parole, le temps de pouvoir recontacter l'invité. Mais nous avons aussi les auditeurs qui ont réagi à travers la page Facebook des Parole aux auditeurs, comme Gabriel Kizaba qui dit ceci, c'est regrettable chez nous à RDC, tout est permis et même certains, comme les partis politiques par exemple, nous prêchent la non-violence alors que quand il s'agit d'aller dans les manifestations publiques, beaucoup de partis politiques ont tendance à finir tout par la violence. Et Joseph Paca dit ceci, la non-violence est un résultat de tout un système. Pour y parvenir, il faut favoriser un environnement non-violent au préalable, car la violence n'est pas innée, elle est acquise, d'où le seul moyen pour y parvenir serait de rétablir la paix dans tous les pays et pouvoir l'intégrer dans le système. Deo Gracias Pondo, tout part d'un principe selon lequel il faudrait éviter de croire que l'enfer c'est l'autre. Cela veut dire que chacun doit porter la responsabilité. Modeste Ilunga pense que la réconciliation de tous les Congolais est l'unique solution de mettre fin à la violence et l'unique solution pour impliquer la notion de paix au peuple congolais. John Kabeya, qui est en Mbujimayi, pense qu'il faut préconiser la retenue et la prise de conscience de toute la population afin de faire rayonner la tolérance dans notre société. Voilà le message. Hein. Il y en a encore d'autres qui pourront être exploités, déposés sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. En attendant que Maître Dismas puisse être avec nous sur les antennes, écoutons Polycarpe qui nous appelle de Mbujimayi au Kasaï Oriental. Bonjour Polycarpe.
Bonjour Pierrot.
Et nous dégageons ensemble les pistes et des solutions pour arriver à intégrer la notion de la non-violence dans notre société. Quelle est votre proposition?
Je suis très content de cette émission parce que ce qui est dit tout à l'heure est en train d'éveiller le nationalisme pour tous les Congolais.
Merci.
La violence a élu domicile dans notre pays depuis les années 1997, 96-97. C'est avec de différentes guerres que nous sommes entrés dans cette situation de violence sans retour. Nous pouvons dire que dans toute société humaine, il y a toujours une forme de délinquance. La violence fait partie des déviations dans une communauté humaine.
Mm-hmm.
Mais je m'en vais vite vous donner ce que je pense comme solution, ce que nous pouvons préconiser ensemble. Puisqu'il fait déjà défaut de la culture de paix, du patriotisme et de nationalisme chez nous, nous avons tous le devoir de revenir à la culture de paix, au patriotisme et au civisme. C'est pour cela que j'appelle tous les groupes possibles, tous les éducateurs, tous les responsables, toutes les organisations internationales qui luttent pour la paix, de s'impliquer dans la recherche de la paix et de lutter contre la violence dans notre pays. Je voudrais citer pour cela la famille d'abord, l'État, l'Église, les immédiats, les agents de l'ordre, la justice et les organisations. Si chacun prend conscience et que tout citoyen congolais prenait aussi conscience, nous pouvons lutter ensemble contre la violence. Voilà ma contribution.
Merci beaucoup, Maître Polycarpe Dembujimaï. C'est un problème, il y a déjà un défaut de la culture de la paix, du patriotisme et du civisme. Alors, vous interpellez les uns et les autres, chacun dans sa responsabilité, de pouvoir prendre conscience. C'est important que chacun prenne conscience pour développer la non-violence dans notre société. Merci beaucoup. Nous avons Monsieur Dismas Kitenge qui est en ligne maintenant. Peut-être que la ligne s'est améliorée avec Sangani. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, rester peut-être à un endroit qui puisse permettre à ce que les réseaux ne soient pas perturbé, Dismas Kitenge, on pourra à continuer ainsi. Vous étiez en train d'expliquer ce que prévoit notre loi par rapport à ceux qui commettent, qui recourent à la non-violence pendant qu'on vous a perdu, Dismas Kitenge.
Oui, notre loi pénale n'est pas muette. La loi pénale a prévu de sanctionner les violences, les différentes formes de violences, en particulier d'abord les violences physiques, je disais les coups et blessures. Il peut s'agir aussi de la torture, depuis que le législateur congolais a institué en une infraction autonome la torture, avec la loi qui régit, qui réprime la torture. Donc la torture sous différentes formes. Je disais, il y a aussi la violence morale. Il peut s'agir des injures, des menaces, qui sont également instituées en une infraction, en des infractions dans notre code. Donc la... Il y a aussi de violences politiques qui sont prises en compte sur le plan pénal. Par exemple, les violences qui sont perpétrées par le parti politique. On peut sanctionner les individus qui les commettent à titre individuel. On peut sanctionner aussi les partis politiques en les retirant l'agrément. Donc, ils ne seront plus reconnus comme partis. Ils ne peuvent pas exercer. Donc, la loi pénale est très riche dans ce domaine-là. Ce qu'il faut, c'est l'application. Alors, je disais également qu'à entendre les différents auditeurs, il s'est dégagé clairement qu'il y a plusieurs formes de violences sexuelles, de violences plutôt, dans notre société qu'il faut combattre. Il y a les formes de violences physiques, violences morales, violences politiques, violences culturelles, violences communautaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Comme les uns et les autres ont dit, je pense que le premier effort, c'est au niveau d'abord de la famille pour combattre ce que moi j'appelle la violence domestique. La violence domestique qui se manifeste par différentes formes, des agressions physiques, des agressions morales contre les femmes, contre les enfants, contre les grands-parents, les personnes âgées. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut une éducation. Une éducation concrète, il faut une volonté sociale communautaire de protéger les personnes vulnérables de ces violences au niveau déjà de chaque famille, de la société en général. Donc ces personnes vulnérables, c'est par exemple les enfants, les femmes, sont de troisième âge. Bon, et si je remonte après au niveau de la violence domestique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une éducation, il faut une formation, mais il faut aussi une sanction contre les personnes qui maltraitent les enfants, contre... Bon, il y a des sanctions qui sont prévues dans notre loi, ce qu'il faut c'est l'application, il faut tout simplement l'appliquer. Alors je passe à un deuxième niveau, c'est les violences communautaires. Les violences que j'appelle communautaires culturelles, qui peuvent être basées sur les préjugés, qui peuvent être basées sur les règlements de compte, qui peuvent être basées sur la forme de justice populaire pour se venger. C'est ce que j'appelle les violences communautaires et culturelles. Il faut combattre. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une éducation au règlement pacifique des conflits, au dialogue, à la tolérance, à l'acceptation des différences inter-individuelles, intercommunautaires. Donc, à ce niveau-là, il faut que les gens aient l'habitude de dialoguer et qu'on mette dans la société ce qu'on appelle des observatoires de paix et les observatoires des règlements de pacifiques de conflits. Ce qu'il faut faire aussi, c'est des interconnexions, mettre les communautés ensemble, faire des mélanges pour qu'ils échangent des expériences
Et là, il y a un effort au niveau des associations de la société civile. Il y a un effort au niveau de l'État, hein, pour dire que, bon, ce genre de violence, on ne peut pas toujours les régler totalement par les droits. Puisque le droit, la loi, c'est une chose, mais aussi la capacité des leaders communautaires à intervenir, à maîtriser leur population, ça c'est aussi un niveau.
Mmh.
Troisième niveau, c'est au niveau politique. Au niveau politique, il faut lutter contre les formes de violences politiques, les violences d'État. Là, je distingue deux choses. Les violences politiques, hein, qui sont des violences qui prennent la forme d'obtention du pouvoir, qui visent à conquérir le pouvoir, et les violences d'État qui peuvent être utilisées pour écraser soit un État ou un groupe d'individus qui menacent les intérêts de l'État. Je pense qu'il faut une formation des leaders politiques.
Mmh.
Et il faut une formation des leaders politiques à la paix, à la tolérance, à la démocratie, pour dire que le pouvoir ne peut pas seulement s'acquérir par la force, et ne doit plus s'acquérir par la force, mais par les élections. Et que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui gagne aujourd'hui. Il faut vraiment habituer les gens, par exemple, les gens du pouvoir, les gens de l'opposition, à parler ensemble, à dire qu'ils ne sont pas des ennemis, mais ils sont des frères, ils sont des adversaires politiques, mais ils ne sont pas des ennemis. Donc, ils peuvent se mettre d'accord, ils peuvent échanger. La culture aussi de savoir que, bon, on a la majorité, mais il faut tenir compte de la protection de la minorité. C'est ça aussi, mmh, la démocratie.
Oui.
Je crois qu'il faut faire des formations, mais là, en dernier lieu, c'est au niveau de la justice. Et notre pays a beaucoup de lois, mais je pense qu'il faut les appliquer.
Oui.
Le problème, c'est l'application pour que la justice soit vraiment indépendante et que la justice ne soit pas politisée, que la justice ne soit pas tribalisée, que la justice ne souffre pas de favoritisme. Mais là, il faut encore une formation aussi pour le magistrat. Il ne suffit pas de garantir l'indépendance au niveau des textes. Il ne faut pas non plus garantir l'indépendance au niveau des moyens, puisqu'il ne peut pas seulement s'agir de problèmes d'indépendance des textes, indépendance des moyens, mais c'est aussi l'indépendance, mmh, d'esprit. Puisqu'on vit des pressions, on voit que les magistrats ont aussi des pressions sociales, des pressions communautaires, des gens qui ne vivent que sur base de leur tribu, tout ça. Mais il faut aussi au niveau social, ce que j'ai dit au niveau de l'enseignement. Il faut lutter contre le tribalisme. Il faut lutter contre différentes formes de pressions. Donc, pour favoriser la société de l'excellence,
oui,
la société de la paix.
Merci.
Et la société, mmh, la cohabitation pacifique entre les différentes races et les différentes populations.
Merci beaucoup, Dismas Kitenge. La lutte contre les préjugés au niveau de la société, c'est important. On vous garde en ligne. Nous avons Maître Gaston ici à Kinshasa et Joseph à Bukavu. Maître Gaston, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, à vous aussi.
Vous avez suivi encore notre invité, comment il a pu développer les différents axes d'intervention, et ensemble nous dégageons les pistes de solutions pour arriver à développer la culture de la non-violence, et qu'on arrive à cultiver la tolérance dans notre pays. Quelles sont vos propositions?
Oui, comme c'est une règle qui provient au niveau international, j'allais dire que vous savez que la violence est autorisée. Ça, vous le savez, je suis sûr, mais dans des cas bien limités. Il est dit dans la charte des Nations Unies que les États, dans les relations qu'ils entretiennent, ils peuvent recourir à la force lorsque il est agressé. Donc, lorsque, comme le cas de notre pays, lorsque nous constatons être agressé par un État voisin, nous devons d'abord nous défendre. Et à ce moment-là, saisir directement le Conseil de sécurité. Et lorsque le Conseil est saisi de la situation et que l'affaire est qualifiée d'une agression, et il prend ses responsabilités en main. Mais parmi les solutions que le Conseil de sécurité pouvait prendre, vous verrez, il y a toujours la violence qu'il peut utiliser pour contraindre un État, et puis pour les relations diplomatiques peuvent être interrompues. Ça, ce sont des cas bien limités.
Mmh.
Que la violence peut être justifiée. Mais aussi, je vais avoir les problèmes sur le plan de notre pays, parce que vu le moment que nous traversons, je pense qu'il est très important que ceux qui sont au pouvoir, disons ceux qui détiennent les richesses aujourd'hui, puissent présenter une même attitude que nous qui vivons dans le même pays, mais dans la galère. Donc lorsque des attitudes diffèrent, là je pense que ça ne va pas. Et nous devons aussi nous considérer comme des partenaires et non des adversaires. Ça, c'est vraiment très important. Nous devons reconnaître les intérêts communs à tous et souhaiter, disons, répondre aux besoins et intérêts communs à tout ça, ce serait la solution pour que les moments que nous traversons ne puissent pas susciter beaucoup de problèmes. Et nous devons distinguer les personnes des problèmes, faire la différence entre des personnes et des problèmes. Nous devons centrer sur les intérêts que sur les positions. Vous allez constater les positions, les intérêts, centrons-nous sur les intérêts. Nous faisons aussi des propositions réalistes, objectives. Et nous devons aussi générer des propositions de gains communs. Cherchons, à mon avis, pour terminer, des solutions où tout le monde pouvait se retrouver. Merci. Je peux ajouter quelque chose que peut se justifier selon les cas. Le cas de David qui avait tué Goliath, Dieu n'avait pas considéré ça comme mauvais. Jésus qui avait utilisé la violence au temple.
Voilà, merci beaucoup, maître. On a suivi. Vous avez évoqué au niveau international avec le Conseil de sécurité qui peut utiliser la force pour aider un pays à recouvrer son territoire, son droit à rétablir la paix. Ce sont des cas rares, les cas exceptionnels. Mais ici, je retiens de votre intervention le problème de la considération de l'intérêt de l'autre. Que ce soit dans la définition des politiques, que ce soit même dans les discussions, dans les propositions, il faudrait qu'on puisse considérer l'intérêt général, l'intérêt des autres personnes. Ça peut éviter des frustrations qui génèrent la violence après. Merci beaucoup pour cette proposition, maître Gaston Joseph. Vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir accordé encore la parole. Et nous disons merci pour l'invité, puisqu'il vient d'illustrer presque tout ce que je devrais dire. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais vous présenter tout ce qui se passe à Bukavu concernant la violence, puisque il n'y a pas plusieurs décennies où le peuple bukavien était accueillant, le peuple était solidaire, le peuple était chaleureux, le peuple était samaritain. Mais cela a été bouleversé par la guerre. Alors, de tout ce qui se passe, monsieur Pierrot, moi, je vous l'ai dit que c'est déplorable, heureusement pour ce sujet, et avec le temps, j'espère que tout va changer. Aujourd'hui, au cas où, si on prend un voleur, on le tue directement, on le calcine sur le champ, au vu de la population, au vu des enfants. Alors, avec tout ça, les enfants grandissent avec cette mentalité de pouvoir tuer les gens. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas plusieurs décennies où montrer un couteau à quelqu'un, cela disait que vous le tuez directement ou indirectement. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, donc tout a changé. Alors moi je vous l'ai dit que ce qu'il faut faire, le gouvernement a un morceau dire à croquer pour changer ça, mais je pense que tout le monde devrait s'impliquer dans cette affaire. Avec la violence, je pense que concernant ces pays, la violence passe presque tout à l'est. Alors, ce qu'il faut faire, je pense que le gouvernement devrait mettre tout en jeu. Et concernant aussi le tribalisme de tout ce qui se passe, pour embaucher quelqu'un, il faut qu'il y ait d'aide, il faut qu'il y ait de mon village. Alors, cela cause la violence. Mais aussi, ce que je devrais aussi ajouter concernant les films que les médias montrent aux enfants. Alors, les enfants sont là pour regarder seulement les films de guerre. Alors, en voyant ces films, les enfants mettent ça en pratique. Alors, les médias pourraient nous aider aussi à militer contre ça. Alors, parler aussi de la violence, je pense que si les peuples pourraient vivre bien et éviter la violence, il y a vraiment les moyens qu'il faudrait faire. Concernant les écoles, mais aussi on devrait dire disons au personnel de la confession religieuse, démontrer ça facilement, puisque c'est déplorable ici. Pour terminer, je vous présente les cas qui se passent chaque jour ici à Bukavu, qu'on appelle le système Kabanga. Avec, pour se promener le soir, c'est un peu difficile. On prend quelqu'un, on le ligote, alors la corde là est cherchée par plusieurs personnes. Avec cette mentalité, je pense qu'il n'y aura pas le changement. Le gouvernement pourrait faire grand chose pour militer contre ça.
Merci.
Mais aussi les bas peuples, à l'université, à l'école primaire. Avec cette culture, je pense que les peuples après plusieurs années, le peuple sera été criminel. Mais merci. Espérons, il y a encore des temps.
Merci on beaucoup, Joseph. Voilà. Merci, Joseph. Si je peux retenir de ce qui est de votre intervention, il y a quelque chose de très important. Vous avez dit la guerre a bouleversé le fondement même de la société. Vous avez parlé des Bukavu. Il y a quelques années, les gens étaient accueillants. Les gens avaient peur de voir les couteaux, tout ça. Mais aujourd'hui, avec les multiples guerres, les gens sont devenus méfiants. Il y a le tribalisme qui est domicile, il y a cette violence qui se développe même et dans des villes comme ici à Kinshasa, on voit avec les jeunes délinquants. Alors, vous pensez qu'il y a un grand travail à faire au niveau du pouvoir public, au niveau des confessions religieuses, au niveau des écoles, la sensibilisation, le rôle des médias aussi, tout cela, c'est important. Merci beaucoup, Joseph. On tend vers la fin de cette émission. On va écouter aussi un dernier auditeur, c'est Omar, et puis nous avons quelques messages. Et puis, on va revenir à notre invité pour conclure. Nous avons Omar qui est ici à Kinshasa. Omar, on tend vraiment vers la fin. En bref, eu égard à tout ce qui a été dit par les autres compatriotes, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi?
Merci beaucoup, Pierrot. J'ai voulu intervenir de façon la plus large, mais le temps faisant qu'il faut.
Mm-hmm.
J'aimerais être pratique et proposer mes solutions.
Allez, rapidement, oui.
Alors, l'invité, les autres ont délevé les causes. Moi, je pense, premièrement, il faut que tous les milieux éducatifs, je vois la famille, l'école et l'église, doivent militer pour apprendre aux enfants la paix et la non-violence, quel est le but et le bien fondé. Aussi, l'État doit améliorer les conditions de vie de ses membres, car il a été démontré que parmi les causes des crimes au monde des violences, c'est aussi les inégalités sociales. Alors, pour établir de l'ordre social, d'autres arrivent à commettre des crimes, et c'est cela aussi. Et enfin, comme l'a dit mon prédécesseur, le CESAC, qui est l'autorité régulatrice des médias, doit revisiter les programmes de chaque chaîne. Il a été démontré psychologiquement que beaucoup de films violents porte atteinte au cerveau des enfants et les pousse à le faire aussi. Et pour finir, Pierrot, le magistrat, au niveau interne qu'international, ils ont l'obligation d'appliquer les lois qui luttent contre les violences. La fonction d'une peine est de dissuader les autres. Aussi longtemps qu'on demande à l'impunité, les violences continueront. Voilà ma préoccupation. Je vais inviter tout le monde, comme l'a dit Gandhi, à la culture de la non-violence, car sans la non-violence, le développement n'est pas possible.
Merci beaucoup, Omar. On termine rapidement avec Michel. Vous êtes à Matadi. Vous avez suivi les uns et les autres parce que là, vous n'avez que 45 secondes, hein, Michel, pour donner aussi votre conclusion dans ces débats. Rapidement, Michel.
Ah oui, je crois que les uns et les autres ont déjà parlé. Mais moi, je voudrais ajouter une chose. C'est par rapport aux médias. Parce qu'aujourd'hui, la communication a une importance capitale. Et je crois que dans la communication, on peut donner un bon message, mais ou bien on peut encore donner un autre message qui peut pousser à la violence.
Mmh.
Aujourd'hui, merci. Surtout dans nos partis politiques, le message va directement à l'encontre des objectifs voulus pour améliorer, pour s'attendre au développement. Le message va directement à la haine. Je crois que les états-majors de nos parti politique doit savoir identifier qui devait être porte-parole du gouvernement, porte-parole des partis politiques, parce qu'il les représente.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, le message qui va, ça pousse à des hommes et des femmes de devenir violents. Et encore, l'accumulation des frustrations engendre la violence. Moi, je crois qu'on doit chercher à faire en sorte que les conditions de vie de l'homme.
Merci.
Être bien.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, si nous sommes trop violents, c'est parce qu'on ne fait rien. Vous êtes à la maison, or, vous devez manger. Lorsqu'on n'a pas à manger, on va chercher à utiliser notre voix.
Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel, pour cette conclusion. C'est vraiment important. Le temps de lire quelques messages. Nous allons accorder la parole à Dismas Kitenge pour la conclusion dans deux minutes. Trésor Toubajiki de Kanangadi, ceci, ventre affamé, n'a point d'oreille. Que les politiciens nous mettent à l'aise et qu'ils nous instruisent. Je pense que tout ira mieux. Charles Bouting Bidouaya de Kananga, parler de la non-violence, c'est voir ma vie et celle de mon groupe. C'est rappeler de Gandhi, de Lumumba et de moi-même. Nous, Congolais, notre vie politique ne peut s'écarter des chaînes de guerre, d'agression, tolérance et souffrance au prix d'un raisonnement, d'un renoncement et d'une maîtrise de soi extrême et par une stricte application de la non-violence à l'égard de tout compatriote congolais. La non-violence, c'est le charisme, les silences, la hauteur et l'amour d'autrui. Enfin, Dido Boleke l'a dit ceci, le bon exemple serait de la part de la communauté internationale. Je ne pense pas que la communauté internationale n'a bien digéré l'opinion de Saddam, de Kadhafi ou encore de Gbagbo et de tous les autres. si aussi longtemps qu'il y aura les pays pauvres, la violence pourra pas se terminer plus facilement. Voilà le point de vue des uns et des autres. On revient à vous, Dismas Kitenge. On a suivi tous les compatriotes dans cette émission. Beaucoup de choses ont été dites. En une minute et demie, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion pour développer la culture de la non-violence dans notre pays à l'égard de tout ce qui a été dit par les auditeurs? Dismas Kitenge, vous êtes avec nous? Ah, dommage que la ligne téléphonique nous a posé des petits soucis avec Dismas Kitenge qui est à Kisangani. On pouvait tirer la conclusion avec lui sur ce qui a été dit par les auditeurs, mais nous avons encore quelques messages qui allaient peut-être nous échapper compte tenu de temps. Il y a notre ami Francine Douba Numbi qui lui pense que bon, célébrer des journées c'est une distraction pour lui. Il pense qu'il faudrait tout simplement que les Congolais puissent avoir un jour pour eux qui doivent penser à ceux qui sont tombés dans la guerre à l'Est, mais les autres journées ne peuvent pas les aider à évoluer. Nous avons Andy Anderson Kambale Matuku qui dit ceci: Paris ne s'est pas construit en un jour. Petit à petit, les choses finiront par changer avec beaucoup de sensibilisation et beaucoup de vulgarisation. On arrivera à développer la non-violence dans la culture congolaise. Et je crois que c'est par là que nous terminons cette émission, en disant merci à notre invité d'Ismas Kitenge que nous avons appelé de Kisangani, mais avec beaucoup de petits soucis avec la ligne téléphonique, bien sûr. Hein. Merci aussi aux auditeurs, vous avez été très nombreux à intervenir dans cette émission consacrée à la culture de la non-violence, la solidarité, la paix, le développement, aussi la tolérance dans notre société. Nous vous disons tous merci.
Allô?
Mais
ils ne répondent pas?
On se retrouve demain, mardi 1er octobre, une journée consacrée aux personnes âgées par les Nations Unies. Les différentes activités organisées tout au long de cette journée ont pour but de rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'ONU et qu'il est important d'assurer leur prise en charge. Quelle est la situation des personnes âgées dans votre milieu? On se retrouve demain à 11h03 heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Nadine Foula, Dieudonné, Nadine Foula, Paul Badianyama et sous la supervision de Nicole Ngaka. Au revoir.